Radio Kapi.
Corneille Nanga cède désormais le fauteuil à Denis Kadima. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu hier à Kinshasa. Premier dossier à traiter par l'équipe Kadima dès la semaine prochaine, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Assassinat le week-end dernier du chef Kayamba dans le territoire de Nyunzu au Tanganyika. La population accuse les Maïmaï Apanapale arrivés à Kayamba dans une incursion sanglante. Dans cette zone, l'armée mène des opérations militaires depuis le 24 septembre dernier. Et puis, avec l'invité de ce matin, nous parlons de l'accident vasculaire cérébral, AVC. La journée dédiée à cette maladie a été célébrée hier, 29 octobre. Quels sont les signes précurseurs de l'AVC? Quel comportement adopter pour l'éviter? Réponse avec le docteur Kalima Nzanzu de Boutembo. Madame, Messieurs, bonjour. Remise et reprise à la Commission électorale nationale indépendante CENI hier à Kinshasa. Le nouveau président de la CENI, Denis Kadima, s'engage à écouter la population pour arriver à des élections inclusives et transparentes, a-t-il dit. C'était hier au cours de la cérémonie de remise et reprise entre le bureau sortant de Corneille Nanga et le bureau entrant que dirige désormais Denis Kadima. Reportage de Jeff Ngoy.
Premier dossier à traiter par l'équipe Kadima de la semaine prochaine. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province.
Sur ce point, la nouvelle commission électorale convoquera une assemblée plénière des membres au début de la semaine prochaine, centrée essentiellement sur cette matière. Je voudrais pouvoir compter sur chacun afin que nous appuyions sur les compétences et aptitudes des uns et des autres, que nous puissions réaliser ensemble un cycle électoral crédible et inclusif. Il suffit d'une écoute soutenue et permanente de nos populations, ainsi que d'une bonne coordination des intelligences et des efforts de tous pour y arriver.
L'engagement de Denis Kadima, président de la CENI.
Notre équipe et moi-même s'engagent à associer toutes les parties prenantes en amont et en aval de nos activités, de sorte que le processus ne reste pas l'œuvre de la seule CENI, mais qu'elle soit un résultat partagé de tous.
Mission accomplie pour Corneille Nanga qui donne quelques conseils à son successeur.
Ce qui concerne les menaces, veillez à ce qu'ils ne portent pas préjudice au processus. La République vous regarde et nous espérons que vous allez atteindre l'objectif en réalisant la mission qui vous est donnée par le peuple.
Sud Kivu, cela fait exactement 7 mois que Marie-Josée Ibalayam, procureur général près la cour d'appel du Sud Kivu, est suspendue de ses fonctions et ce, 3 mois seulement après son entrée en fonction. Depuis, elle a été rappelée à Kinshasa par le Conseil supérieur de la magistrature. Selon des sources proches de l'enquête, plusieurs griefs lui sont reprochés. L'affaire est fixée devant la Chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant ce temps, l'intérim est assuré par l'avocat général près la cour d'appel du Sud Kivu. Explication de Cynthia Bachizi Nabizana.
Cette suspension fait suite à une lettre de dénonciation du club des pétroliers adressée au procureur général près la cour de cassation. Ces derniers se plaignaient de tracasseries et des arrestations arbitraires dont leurs membres seraient victimes. Des accusations rejetées par l'incriminé à l'époque pour qui des infractions claires étaient établies. C'est dans ce cadre qu'une action disciplinaire a été ouverte et un magistrat dépêché à Bukavu pour enquête. C'est à l'issue de cela que la faute a été constatée. Il est reproché à Marie-Josée Ibalayam d'avoir failli son devoir de magistrat selon les articles 46-47 de la loi portant statut de magistrat. D'abord, il y a un soupçon de détournement. Une caution pour mise en liberté provisoire n'aurait pas été déposée dans sa totalité à la DGRAD. Ensuite, Marie-Josée Ibalayam aurait requis un officier de police judiciaire, mais s'est abstenue de faire le suivi du dossier. L'OPJ a dès lors profité de cette brèche pour extorquer de l'argent à certains pétroliers. Il a depuis été condamné à 2 ans de prison ferme et à la restitution de toutes les sommes extorquées. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Province du Maniema, le député provincial Kaluku Lalutaka Gaspard, élu de la circonscription électorale de Punia, dit déplorer la multiplicité des taxes et les tracasseries judiciaires auxquelles font face au quotidien la population de Punia. Cet élu dit avoir fait ce constat lors de ses vacances parlementaires sur place. Kaluku Lalutaka Gaspard en parle au micro de Florence Kizalunga.
Il est vrai que cette population qui cherche à s'y prendre en charge, mais elle est habitée à beaucoup d'obstacles, notamment des tracasseries policières, des barrières par-ci par-là, où on rançonne cette population qui n'a rien. Et aussi, il y a multiplicité des taxes qui freinent le développement de ce milieu ici, parce que il y a trop de taxes, on dit, trop d'impôts tue l'impôt. L'état des routes Pugna-Cassès, le long de 125 km, est dans un état très puté. À part le pied, il n'y a pas un autre moyen qui peut faciliter les transports jusqu'à ces lieux où nous avons une grande production de toutes les matières confondues se trouvant dans ces pays et que Dieu a donné sur la terre. L'entité qui produit beaucoup plus, mais elle est abandonnée à son propre triste sort. Nous regrettons. Nous ne cesserons jamais d'explorer et de demander aux autorités, tant provinciales que nationales, de veiller sur cette entité-là qui contribue au trésor public de la République.
La Direction générale des recettes du Nord Kivu, DGRNK Beni, annonce une campagne de recouvrement forcé de l'impôt et autres taxes, notamment auprès des conducteurs des engins roulants. Selon un communiqué publié jeudi, cette campagne commence dès lundi 1er novembre sur toute l'étendue de la ville et territoire de Beni. L'octroi des documents d'un engin automoteur contribue aussi à réduire l'insécurité dans une zone comme Beni, où l'ennemi profite le plus souvent des engins non enregistrés pour opérer, indique la DGRNK. C'est ainsi que chaque assujetti est appelé à s'acquitter de ses devoirs, comme le dit ici Paul Mahamba Chikuna, chef de centre à la DGRNK Béniville et Territoire. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Il s'agit pour cette campagne de l'impôt sur les véhicules, attendez par la vignette, la taxe spéciale de circulation routière, le certificat de contrôle technique, mais également l'attestation tenant lieu des permis de conduire. Et donc, pendant les contrôles, il sera question que les usagers de la route puissent présenter les preuves de paiement de tous ces documents-là, ce qui leur évitera les désagréments du recouvrement forcé. En matière d'enregistrement des engins automoteurs, c'est vraiment une matière très sensible parce que la sécurité elle-même veut que tous les engins qui roulent sur la chaussée soient enregistrés. Et lorsqu'on demande le paiement de l'impôt sur les véhicules, c'est un des éléments de l'enregistrement de ces engins-là. Et donc, dire que nous connaissons un moment des difficultés, la guerre, c'est vrai, mais aussi c'est mieux que les conducteurs et les engins qui sont sur la route soient aussi des engins en ordre connu pour que l'ennemi ne puisse pas en profiter et venir avec un engin non autrement identifié pour nous faire du mal.
Notez que cette campagne concerne également l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif et autres taxes à caractère annuel. Restons à Beni pour signaler qu'une importante quantité d'engins explosifs a été détruite hier au site d'apprentissage militaire des FARDC de Nialeke. Nous sommes à 15 km sur la route Beni-Kassindi, une opération menée par les experts de démolition de UNMAS, Afriland et les FARDC. Des précisions avec Marc Marofimbo.
Ce sont des mines ou bombes artisanales récupérées de main des groupes armés actifs dans la région, dont les IDF, lors des différentes opérations menées par les FARDC. Une opération de démolition réussie, a indiqué les chargés des opérations de UNMAS, les services de lutte anti-mines des Nations Unies. Monsieur Jacob Beidjo donne ici la description des engins détruits.
Il y avait 24 pièces de bombes artisanales dans les casseroles et d'autres séries de bombes artisanales. Et il y a 10 pièces de détonateurs là fabriquées localement. Ce sont les mêmes types de munitions qui sont en train de tuer la population, des pièges que les ennemis des groupes armés sont en train de mettre dans la bouche, dans les champs des populations au niveau des secteurs ou en jour là-bas. Ce sont les mêmes engins là que nous venons de détruire aujourd'hui. Donc sans contribuer pour la protection des civils et aussi sans contribuer pour le développement.
La région est à sous-ménance des groupes armés. Les mines et engins de guerre sont visibles dans plusieurs coins du territoire de Beni et principalement dans les champs de la population en secteur de Rwenzori. Jacob Beridjo appelle la population à la vigilance et à signaler toute présence d'engins explosifs à la police, à l'armée ou à UNMAS afin que les opérations de démolition de ces engins soient planifiées si tôt possible. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika. Nous apprenons l'assassinat du chef Kayamba de la localité qui porte son nom à 99 km dans le secteur nord Lukuga, dans le territoire de Nyunzu. La population attribue le crime au Maïmaï Apanapale arrivé à Kayamba dans une incursion sanglante. La mort du chef Kayamba survient dans une zone où des problèmes de sécurité se posent avec acuité. C'est ce que nous dit François-Xavier Mibé.
Le chef Kayamba Lumanga est mort décapité dans une incursion survenue entre le samedi 23 et le dimanche 24 octobre, perpétrés par les Maïmaï à Panapalé. La mort du chef Kayamba intervient dans une région où l'armée nationale mène depuis le 24 septembre des opérations militaires contre les groupes armés actifs. Deux officiers et des hommes des troupes sont signalés tombés sur les champs des opérations. Voilà ce que nous apprenons des sources proches de l'armée nationale. La situation sécuritaire reste aujourd'hui préoccupante sur l'axe routier Kalé-Mignonzou, qui observe la montée des cas de coupeurs de route, des attaques sur les villages et des pillages systématiques des biens des usagers. Cette situation d'insécurité est aussi observée dans la région qui couvre le sud du Maniema, le nord de Nyonzou, de Kongolo et celui de Kalemi, dans la province du Tanganyika et du sud Kivu, dans les territoires des Fizi. Une région appelée le triangle de la mort, ou autrement, la zone de trois frontières, pour avoir réussi à englober trois provinces dans une même région d'insécurité, où manque l'autorité de l'État en même temps que les services de sécurité. Depuis le début du conflit Toi-Bantou en 2014 en territoire des Nyonzou, l'entité a déjà perdu une dizaine de chefs coutumiers, dont le dernier reste le chef Mukimbo, assassiné lui aussi le 17 janvier 2017. Kalemi, François Djabemi, Radio Okapi.
Au sud Kivu, commémoration hier 29 octobre du 25e anniversaire de l'assassinat de Mgr Christophe Mundiirwa, archevêque de Bukavu. Ce prélat catholique avait été abattu par des militaires de l'AFDL lors de l'occupation de la ville de Bukavu en 1996. Pour honorer sa mémoire, une messe d'action de grâce a été dite à cette occasion à Niawera, dans la commune d'Ibanda, où le prélat a été tué. Retour sur les faits avec Emmanuel et la Meji Wakabedi.
L'archevêque de Bukavu est assassiné lors de la prise de Bukavu par les éléments de l'AFDEL le 29 octobre 1996. Plusieurs témoins encore vivants reviennent sur ce qui s'était passé ce jour-là. Alors que les coups de balles se faisaient encore entendre sur la ville, Christophe Mundiirwa quitte Vamaro et prend la direction du collège Alfadiri à l'est de la ville. Il tente d'aller sauver les sœurs dont la sécurité n'était pas garantie. Arrivé sur la place dite Niawera, en plein cœur de Bukavu, il est stoppé par un groupe de militaires occupants. S'en est suivi une longue discussion. Ce sont les occupants d'une deuxième voiture qui venaient par derrière et qui ont réussi à s'échapper et vivre la scène à distance. Selon leur témoignage, c'est au-delà de 18h30, après longue discussion, que Christophe Mundiirwa sera abattu sur le même endroit. Il a fallu attendre le lendemain à la mi-journée pour que son corps soit retiré par le père Xaverien, alerté par un passant. Né en 1926, ordonné prêtre en 1958, Christophe Mundiirwa est nommé archevêque de Bukavu en 1994. Il est mort le 29 octobre 1996. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Rendons-nous en Ituri. Le réseau des femmes leaders africaines antenne de l'Ituri est officiel depuis jeudi à Bunia. C'est une délégation des femmes leaders de la RDC, partie de Kinshasa et appuyée par ONU Femmes, qui est à l'origine de cette initiative. Selon cette structure féminine, quatre autres réseaux des femmes congolaises, composés des politiques, des femmes rurales et de la société civile, seront installés dans cette province où les groupes armés sont actifs. L'objectif est d'assurer l'accompagnement des femmes de l'Ituri pour leur implication active à la gestion de la chose publique, à la recherche de la paix et du développement durable. Reportage de Clarisse Zindula.
C'est dans cette ambiance des chants accompagnés des cris de joie que la cérémonie d'installation des quatre réseaux des femmes leaders congolaises s'est déroulée à Bunia ce vendredi. Il s'agit de la DINAFEC, du REFEPEL, du RENAFER et enfin de AOLIN. Ces structures féminines vont faciliter le réseautage entre les femmes de l'Ituri et celles des autres provinces de la RDC, mais également celles de l'Afrique en général. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Leboyankachama, a félicité les femmes pour leur engagement à contribuer à la recherche de la paix en province. Les femmes de l'Ituri ont également exprimé leur satisfaction pour l'installation de ces différents réseaux qui, selon elles, viennent renforcer les organisations féminines qui sont déjà opérationnelles pour des actions concrètes et plus efficaces. La coordonnatrice de Sofepadi en Ituri, Noëlla Alifoua.
La création de ces réseaux va nous mettre en contact avec d'autres femmes d'autres provinces et aussi les informations de tout ce qui se passe en Ituri pourraient passer à travers ces réseaux-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose là, pour le bien-être de la femme.
Rappelons que l'installation de ces réseaux est appuyée par l'ONU Femmes, agence onusienne qui milite pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Bunia, Clarisse Zindula Eka, Radio Okapi.
Actualité, Afrique monde.
Une forte mobilisation populaire est attendue ce samedi 30 octobre au Soudan, ce à l'appel des organisations civiles issues de la révolution de 2019. Des manifestations partout dans le pays doivent venir clore 5 jours de tension après le coup de force de l'armée le lundi dernier. Malgré les mises en garde, le général Al-Bourhan a choisi délibérément le coup de force contre les dirigeants civils avec qui il partageait le pouvoir jusqu'à dimanche dernier. Samedi encore, l'envoyé spécial du président américain Jeffrey Feltman s'était efforcé de le convaincre de chercher une solution à la crise politique qui couvait depuis des semaines, mais en vain. Les dirigeants du G20 se retrouvent à Rome ce week-end avec un agenda chargé. À la veille de la COP26, on parlera beaucoup de climat, mais il sera aussi question de la lutte contre le COVID-19. À cause du regain de coronavirus dans leurs pays respectifs, le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont renoncé à faire le déplacement. C'est du moins leur excuse officielle.
L'invité.
La journée dédiée à l'accident vasculaire cérébral AVC, c'était hier 29 octobre, une maladie qui va jusqu'à rendre infirmes ses victimes. Selon le médecin interniste Kalim Anzanzu, tout le monde peut attraper cette dangereuse maladie en cas de manque de précaution dans sa vie quotidienne. Mais quels sont les signes précurseurs de l'AVC? Quel comportement adopter pour l'éviter? Réponse avec notre invité, le docteur Kalim Anzanzu. Il s'entretient avec Sadiq Yaboubakar.
Docteur Kalim Anzanzu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Ce 29 octobre est dédié à l'AVC, accident vasculaire cérébral. Quel sens vous donnez à cette maladie?
Et comme vous le dites, l'accident vasculaire cérébral, c'est une des maladies qui rendent même infirme si on ne se fait pas soigner à temps et surtout si ça se répète, parce que ça peut aussi se répéter 2-3 fois.
Alors, comment se manifeste cette maladie?
La maladie se manifeste par une diminution de la force dans une partie du corps. Et la plupart des temps, ça peut être la moitié d'un corps, ou alors la personne vient en coma et quand elle commence à se réveiller, on constate qu'il y a un membre ou les deux membres qui sont déjà paralysés. Donc c'est surtout ça ce qui se présente.
Docteur, cette maladie, l'AVC, il y a peut-être une décennie, on ne la connaissait vraiment pas. Mais actuellement, c'est devenu comme, on dirait, quelque chose de plus légère. Donc tout le monde peut l'attraper. Est-ce que c'est parce que la médecine n'était pas assez évoluée pour détecter cela? C'est quoi la raison?
Il y en avait toujours. Le problème, c'est que peut-être les gens qui étaient à risque de développer cette maladie étaient moins nombreux. Et c'est ces personnes qui sont à risque, ce sont les hypertendus, les diabétiques, les obèses, les fumeurs. Il y a même ceux-là qui ont des troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui ne bat pas à un rythme régulier. Quand il y a déjà des irrégularités là-dedans, il y a des pauses dans la façon du cœur de battre, ça peut permettre à ce qu'il y ait formation des caillots. Quand le cœur va battre, il propulse les caillots jusque dans les vaisseaux et il y aura une obstruction. Donc, ce genre de pathologie, c'est maintenant qu'on commence à les voir. Les hypertensions, beaucoup de gens sont stressés avec la situation des guerres que nous sommes en train de vivre à l'Est, avec le chômage, avec c'est pas beaucoup de problèmes qu'il y a dans la vie aujourd'hui. Les gens commencent à devenir des diabétiques suite à l'alimentation qui n'est pas adaptée. C'est comme ça que les gens commencent à grossir éperdument. Et ça, ce sont des pathologies. Quand vous les avez, ça prédispose déjà à faire l'AVC si ce n'est pas bien soigné. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme les gens commencent à développer ces pathologies et ils pensent plus à une intoxication que à un phénomène qui surviendrait de ce qu'ils sont en train de vivre, c'est comme ça que les gens négligent de se faire soigner et ils arrivent facilement à des complications. Et
quels sont les signes précurseurs de cette maladie? Comment on peut sentir quelque chose? On s'est dit, ben, ça c'est peut-être le début de l'AVC.
Les signes précurseurs, vous allez voir des fois, le malade vient vous dire, j'ai des maux de tête, ou bien j'ai un flou dans les yeux, ou bien il vous dit, je sens que la moitié de mon corps commence à devenir lourd. Ça, il faut déjà commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ou bien vous sentez des sensations de picotement, ou bien des malaises dans la moitié d'un corps, ou même dans un seul membre. Consultez directement. Parce que là, il y a quelque chose qui se prépare.
Est-ce que localement, on peut guérir cette maladie?
L'AVC, si c'est la première crise et vous arrivez à temps, c'est-à-dire dans les 2 heures, maximum 2 heures.
2 heures.
2 heures maximum quand vous avez commencé la crise. Vous pouvez être sauvé et guérir, récupérer à 95-99%. Mais quand vous dépassez 48 heures, là, vous risquez d'avoir des séquelles.
Alors, docteur, que faut-il faire pour prévenir l'AVC?
Pour prévenir la maladie, c'est question de faire des check-ups réguliers.
Ça veut dire c'est faire consulter régulièrement.
Faire consulter régulièrement. Vous prenez la tension artérielle, ne fût-ce qu'une fois par trimestre. Vous faites votre taux de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, une fois tous les 3 mois. Vous faites aussi un examen de votre corps, ne fût-ce qu'une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Le médecin saura déjà que vous êtes prédisposé à faire telle ou telle maladie et si c'est un des facteurs de risque de l'AVC, vous aurez des médicaments et ça va passer.
Et pour la prédisposition, vous avez parlé également des gens qui fument. Qu'est-ce qu'il faut dire à cette catégorie de la population?
Tout ce qu'on peut leur recommander, c'est de laisser.
Docteur Kalima Nzanzo, merci.
Je vous remercie également.
Notre invité s'entretenait avec Sadiki Aboubakar. C'est la fin de ce journal, supervisé par Ben Kabamba, coordination de recherche Union Kamunga. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiokapi.net. Merci de votre attention.